Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h45 et Elisabeth Martichoux recevait donc ce matin Benoît Hamon.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL.
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux, c'est vrai. C'est la première fois d'ailleurs qu'on vous entend depuis 2018. Ouais, tant mieux, meilleurs vœux. En effet, jusqu'à la fin du mois de janvier. On peut. Vous avez été ministre à Bercy pendant 2 ans. Vous étiez chargé de la consommation au début du mandat de François Hollande. Un mot de cette affaire Lactalis, du lait contaminé Lactalis. Comment expliquez-vous que pratiquement toutes les enseignes, Leclerc, Auchan, Intermarché, Cora, Carrefour, Système U, admettent avoir vendu des produits qui auraient dû être retirés de leur rayon depuis plusieurs semaines?
Comment je l'explique? Il y a eu d'abord une défaillance de ces entreprises, de la grande distribution, mais aussi peut-être une défaillance de l'État. Et j'aimerais d'ailleurs que sur ce sujet, si tant est qu'il y a un ministre de la Consommation, le gouvernement nous réponde. De quoi parle-t-on? D'un lait contaminé, dangereux pour les bébés, et qui a été vendu à des mamans. Donc on a pu... des papas, mais qui ont en tout cas des familles, à des parents, qui ont acheté un lait potentiellement contaminé, dangereux et qui pourrait être mortel. Pourquoi? Parce que la bactérie en question, la salmonelle, est extrêmement dangereuse. Que se passe-t-il dans ce pays aujourd'hui? Nous avons une réduction des effectifs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Qui sont ces gens? Ce sont ces fonctionnaires qui, sur le terrain, viennent contrôler la loyauté des transactions économiques au jour le jour, la qualité de ce que vous consommez, etc., etc. Eh bien, on baisse la garde, c'est-à-dire qu'il y a moins de contrôle sur le terrain, et comme conséquence, il se passe quoi? Que les entreprises elles-mêmes qui réduisent leurs coûts pour des logiques de profit, eh bien, nous exposent à des dangers sanitaires comme celui-là. Souvenez-vous, j'avais été ministre de la Consommation au moment de l'affaire de la viande de cheval. Qu'est-ce qu'on en avait tiré comme conséquence? On avait tiré comme conséquence la nécessité de sanctionner durement ceux qui tromper les consommateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur des grandes affaires comme le Dieselgate, etc., des grandes entreprises peuvent être exposées à des amendes qui vont jusqu'à plusieurs milliards d'euros.
Mais
d'un mot, Elisabeth Martichoux, quand même.
D'abord, la responsabilité de l'État, c'est un peu intéressant, parce que tout à l'heure, on avait un syndicaliste de la DGC.
CRF,
la répression des fraudes, qui disait, écoutez, on ne peut pas être derrière les 22 millions de boîtes qui devaient être retirées, après 3 rappels successifs, d'ailleurs un peu brouillons, de Lactalis. Vous mettez vraiment le paquet de l'accusation sur l'État, les distributeurs ils sont exonérés de responsabilité.
Pas du tout, la chaîne de responsabilité, elle est complète. Mais il y a un moment, qui est responsable du fait que vous allez acheter, quand vous êtes une maman ou un papa, pour vos enfants, un lait contaminé qui ne devrait pas être vendu dans un grand magasin? Il faut bien qu'il y ait des contrôles, ce que moi je ne reprocherais pas à la CCRF et aux agents de la CCRF.
Il n'y a pas moins de contrôles, disait Benjamin Griveaux hier matin.
Non mais la réalité, alors là, je veux bien avoir le débat avec lui, qui est le ministre de la Consommation? Qui est responsable politique? C'est bien pratique, ce gouvernement, où en fait, il y a des secrétaires d'État, son portefeuille...
C'est Bruno Le Maire qui a pris le décret qui
Écoutez, si c'est lui, qu'il nous dise pourquoi il baisse les effectifs de la CCRF. On a une affaire d'obsolescence programmée sur Apple. C'est-à-dire qu'on soupçonne Apple de vous vendre des téléphones qui vont dysfonctionner délibérément plus tôt pour pouvoir les renouveler plus facilement. On a une affaire majeure sur le Dieselgate. On a une affaire avec Lactalis. Aujourd'hui, on voit bien que dans le champ de la consommation, on a besoin de davantage de contrôle. On ne peut pas vouloir que l'expansion du marché, comme le veut M. Macron, et dans les faits, ne pas contrôler la loyauté des transactions entre les consommateurs et l'État. Et moi, je dis qu'il y a une responsabilité politique du gouvernement.
Il y a une défaillance des contrôleurs de la DGCRF qui n'ont pas les moyens.
Il y a une défaillance de l'État et du gouvernement quand il réduit les moyens de la CCRF. Vous savez combien d'agents c'est, la CCRF, pour toute la France? Même pas 3 000.
Oui.
Même pas 3 000. Et on leur demande de contrôler les transactions sur Internet, pour pas que vous soyez trompés, les transactions dans les grandes surfaces, dans les commerces de bouche, on leur demande de faire tout ça. On leur demande de contrôler une aire de jeu pour voir si elle est conforme
là,
en termes de sécurité.
Il y a 2000 contrôles.
Il y en a forcément. Moi, je pense que ces gens-là travaillent bien et ils travaillent remarquablement. Pourquoi leur enlève-t-on des moyens? Vous avez là les conséquences d'un budget où, à force de vouloir couper, à vos forces de vouloir réduire les administrations, on fait prendre des risques aux consommateurs. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait un ministre et un membre du sous-gouvernement qui répondent. C'est une affaire quand même suffisamment grave pour que le politique s'en saisisse.
Il faut d'ailleurs un ministre dédié à la consommation.
En tout cas, il faut quelqu'un qui parle. Je me moque de savoir s'il y a un ministre dédié à la consommation. Mais il ne peut pas y avoir personne. Si M. Le Maire a ça dans son portefeuille, qu'il nous explique pourquoi il a réduit les moyens de la DGCCRF. Pourquoi il y a moins d'agents qui contrôlent. Voilà une belle administration. D'un mot
il
quand même.
Fera.
Quand il y a eu l'affaire de la viande de cheval, vous vous en souvenez? Qui a permis à toute l'Europe de savoir où se situait cette tromperie économique à l'échelle européenne. Les agents de notre administration en France. On a une belle administration. C'est la démonstration que la fonction publique, elle héberge des compétences, une expertise que nous sommes les seuls à avoir. Pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas aidés, accompagnés et consolidés dans leur mission ? C'est incompréhensible. La seule logique, c'est de réduire des coûts. Et bien, en réduisant les coûts, on se retrouve dans des situations où nous, comme consommateurs et comme parents, sommes de plus en plus exposés.
Premier coup de gueule de Benoît Hamon ce matin sur RTL, donc on verra la réponse du gouvernement. Un deuxième sujet important aussi, c'est le Premier ministre aujourd'hui qui reçoit les associations pour leur présenter le projet de loi Asile et Immigration qui sera débattu avant l'été au Parlement. Vous aviez accusé le président Macron de faire pire que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire, j'imagine, dans votre esprit, d'avoir une ligne encore plus dure sur cette question.
Là, c'est le cas.
Le gouvernement répond que tout est fait pour répondre aux défis de l'intégration.
D'accord, pas une seule association aujourd'hui d'accueil des migrants ne dit cela. Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur, même Claude Guéant, quand il organisait des réunions, les associations d'accueil des migrants ne quittaient pas les réunions. Aujourd'hui, elles les quittent, scandalisées par quoi ? Par le fait que le ministre de l'Intérieur demande demain quoi ? À ce que, dans des centres d'hébergement, où en France, on applique quoi ? Le droit inconditionnel à être hébergé quand vous êtes dans la nécessité. Fort heureusement en France, si vous êtes à la rue, on ne vous demande pas votre carte d'identité, votre statut, on vous héberge. C'est un droit de la République. Mais attendez, c'est un mot d'explication sur ces choses-là. Vous voulez m'interrompre déjà ?
Non, mais on en a beaucoup débattu.
On demande, oui, mais d'accord.
Je voudrais vous faire préciser, l'inconditionnalité, disait Benjamin Griveaux encore hier matin, n'est pas l'indifférenciation. Le gouvernement exige avoir le droit.
Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'inconditionnalité. Ça veut dire qu'on trie ceux qu'on héberge et ceux qu'on rejette à la rue ou qu'on veut expulser. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va demander à des travailleurs sociaux, dans des centres d'hébergement, de violer la loi si on ne la change pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont absolument pas le droit de transmettre des fichiers comme cela. Qu'en plus, je rappelle qu'un hébergement en centre d'hébergement d'urgence, une chambre, est assimilable à un domicile privé. Donc c'est du viol d'un domicile privé. Donc on est dans une approche...
C'est un sanctuaire dans lequel les agents de l'État ne peuvent pas entrer pour savoir qui est là selon son statut. Non, mais je vous pose la question, puisque vous parlez d'inconditionnalité.
Infraction, violence... Mais la question, Madame Martichoux, est-ce que vous voulez que demain, en France... On demande aux travailleurs sociaux dans leur centre d'hébergement de dire « Celui-là, parce qu'il est débouté du droit d'asile, il doit quitter ce centre d'hébergement, il est nécessiteux. » C'est ça la réalité.
Vous avez l'honnêteté de reconnaître que quand on écoute, ça sera peut-être la réalité. Il n'y a pas eu encore de contrôle dans les centres d'hébergement. Donc
mais c'est
pas
ça
exactement
que le gouvernement propose.
Mais le gouvernement dit « On ne demandera pas aux travailleurs sociaux, on demandera aux personnes qui sont là, et elles répondront ou pas, de nous faire savoir quel est leur statut. »
Non mais c'est en soi, mais quand même une forme de criminalisation de la pauvreté. Qui devient le coupable ? Celui qui est hébergé parce qu'il est demandeur d'asile, parce qu'il a été ce qu'on appelle peut-être débouté ou alors parce qu'il est dubliné. Vous savez ce que c'est dubliné ? Ce sont les demandeurs d'asile qui devraient quitter la France parce qu'ils sont rentrés par exemple par la Grèce.
Recenser les demandeurs d'asile, faire la différence entre les demandeurs d'asile, ceux qui ont le droit de rester et ceux qui seront déboutés parce qu'effectivement ils n'entrent pas dans les critères du droit d'asile. Est-ce que c'est une mauvaise politique en soi ?
Non, mais répondez-moi. Je vais vous répondre très clairement. La mauvaise politique est celle du gouvernement qui dit les choses suivantes. Qui dit, aujourd'hui, sur l'assurance chômage, je vais prendre le même... Non, mais attendez. Pour l'assurance chômage, le problème des chômeurs, c'est qu'il y en a qui sont volontaires d'être chômeurs, donc il faut davantage les contrôler et les sanctionner. Qui dit que pour les sans-abri, la parole de M. Castaner, il y en a qui sont volontaires pour ne pas être hébergés. Qui dit que les migrants, aujourd'hui, il faut trier ceux qui sont les bons et les mauvais migrants. Ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'on criminalise la pauvreté pour échapper à nos responsabilités.
Laurent Berger dénonce dans l'Obs ce matin
un
président à deux faces, celui qui salue l'humanité d'Angela Merkel, celui qui serre la vis une fois au pouvoir.
Mais c'est un peu ça, et il a parfaitement raison, Berger. Il dit la réalité, c'est que parmi les fake news, il y a d'abord le discours du gouvernement. Quand ce gouvernement, aujourd'hui, nous prétend être humain et qu'il a la politique la plus dure depuis Nicolas Sarkozy, au point que toutes les associations de droits de l'homme protestent, au point que les Nations Unies nous montrent du doigt, la première fake news, c'est-à-dire imposture, celle que dénonce Emmanuel Macron à longueur de journée, c'est la politique du gouvernement. C'est pas lui, c'est le choix qui consiste à dire « je suis humain » quand en réalité, on est en train de faire le tri des migrants. Moi, je le dis, le tri des migrants, c'est d'abord le tri des pauvres. Ne regardons pas le migrant en fonction de son statut et de là où il vient. Regardons-le pour ce qu'il est, une femme ou un homme pauvre qui a besoin aujourd'hui de la solidarité la plus élémentaire de la République. L'honneur de la République, c'est de tendre la main à celui-là et de ne pas le gifler.
C'était votre deuxième coup de gueule. Il nous reste très peu de temps. J'ai dit tout à l'heure, vous avez des troupes clairsemées. Vous n'êtes pas très isolé, la génération Poins ? Vous n'êtes pas un peu tout seul ? Non, mais en un mot. Écoutez, vous avez des personnes qui vous ont rallié, les grands élus ?
On a, en trois
en deux,
mois...
En trois mois.
En trois mois, c'est plus de 50 000 membres pour un nouveau mouvement politique. Allez me dire, à gauche, qui est capable aujourd'hui d'avoir un mouvement comme celui-là ? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire un casting de personnalités. Voyez-vous, un mouvement politique...
Donc personne ne vous a rallié, que vous pourriez aujourd'hui...
Vous les connaissez aujourd'hui, les personnalités qui travaillent avec nous, de Noël Mamère à Dominique Bertinotti, etc. Mais le sujet, il n'est pas Guillaume Balas ou plein d'autres députés européens. Mais est-ce que si vous croyez que ce sont avec les dirigeants d'hier... qu'on va construire un nouveau mouvement politique à gauche.
Est-ce que c'est avec les dirigeants d'hier, enfin ceux qui en tout cas se sont dit candidats à la tête du PS, que le PS peut revenir ? Il est encore attractif, le Parti Socialiste. Vous avez vu, il y a 4 candidatures déjà, il y en aura peut-être 6.
Bon, écoutez, moi je n'ai pas commenté.
Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Emmanuel Morel, peut-être Julien Drey.
Je ne veux pas commenter ce qui se passe au Parti Socialiste. Non, mais c'est aux socialistes de savoir s'ils sont crédibles aujourd'hui dans le débat politique, s'ils sont opposés à Emmanuel Macron ou pas. Moi, il ne me revient pas d'apprécier ou de juger qui est le bon ou le mauvais candidat.
Pour l'instant, vous ne savez pas où ils sont, donc. Vous ne voyez pas exactement quel est leur discours.
Écoutez, comme beaucoup, j'attends de comprendre si ce parti est favorable ou défavorable à Emmanuel Macron. J'ai l'impression que selon les uns ou selon le moment où il parle, ça change, c'est tout. Mais je ne ferai pas davantage de commentaires.
Merci Benoît Hamon d'avoir été ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.